Vous écoutez
RMC.
Mardi 9 juin,
l'info sur RMC.
Il est 6h. Merci d'être là, RMC. RMC Découverte, Céline Kallmann vous donne les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Changement de ton, changement de méthode. Christophe Castaner promet la tolérance zéro contre le racisme dans la police. Le ministre de l'Intérieur abandonne la technique d'étranglement. Christophe Castaner, invité de RMC BFM TV ce matin à 8h30. Houston, Texas, à l'heure du recueillement, funérailles de George Floyd aujourd'hui. Hier, plusieurs milliers de personnes lui ont rendu un dernier hommage. Capitaine, par ici la sortie. Thiago Silva quitte Paris. En fin de contrat, le défenseur brésilien ne va pas être prolongé. RMC 6h, bienvenue à tous.
Je veux que chacun sache que quand on porte l'uniforme bleu de la loi, on ne se situe jamais au-dessus d'elle. On se doit, au contraire, plus encore que d'autres, d'être exemplaires. Alors, je veux une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre.
Poussé à agir, Christophe Castaner a été ferme hier lors d'une conférence de presse alors que la mort de George Floyd a eu un retentissement mondial. Le ministre de l'Intérieur, qui sera ce matin sur RMC BFM TV à 8h30, a annoncé des changements concrets dans le fonctionnement des forces de l'ordre. Maxime Ramsater.
Le ministre de l'Intérieur s'est montré clair, c'est la fin de la technique d'interpellation dite de l'étranglement. Elle consiste à attraper une personne par le cou pour l'amener au sol. Cette technique était mise en cause notamment dans l'interpellation de Cédric Chouviat, un livreur mort il y a 5 mois. Qu'en est-il du plaquage ventral? Quand un individu ne se laisse pas interpeller, il faut forcément le conduire au sol pour le menotter, explique le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Mais il faut le contenir le moins longtemps possible. Christophe Castaner a aussi voulu répondre à ceux qui accusent la police de racisme. Il annonce une suspension systématique des forces de l'ordre lorsqu'un acte ou propos raciste est avéré, et ce avant même la fin de l'enquête judiciaire. Enfin, le ministre de l'Intérieur souhaite mettre l'accent sur la formation des policiers et gendarmes en y intégrant la sensibilisation à la non-discrimination.
Les syndicats de police s'interrogent, c'est la seule technique, l'étranglement, qui permet aux agents de maîtriser un individu dont le poids est supérieur. C'est ce que dit ce matin Frédéric Lagage du syndicat Alliance. Édouard Philippe est attendu à Évry tout à l'heure. Le Premier ministre va y rencontrer des policiers, rencontre aussi avec une association. Nos reporters se sont rendus dans un quartier de Suresnes, près de Paris, où les jeunes, souvent confrontés aux forces de l'ordre, ont enfin l'impression d'être entendus. Ils espèrent de vrais changements. Reportage de Romain Poiseau et Mao Bécargue.
Sur le terrain de jeu de la Cité des Chênes, Saul, 18 ans, lui, a déjà connu les coups des policiers.
Oh, je me suis déjà fait taper. 2-3 patates comme ça.
Difficile pour le jeune homme d'espérer que ces mesures changent vraiment les rapports entre les jeunes et la police.
C'est pas un matricule ou une caméra ou tout ce que vous voulez qui va changer les choses, en vrai de vrai. S'ils veulent nous taper, ils vont nous taper. Ils vont, comme je vous ai dit, ils vont toujours trouver un moyen. C'est pas là le problème. En voyant tout ce qu'il y a aujourd'hui, comme on voulait avoir de l'espoir, on peut pas avoir d'espoir, il n'y a pas de justice.
Son camarade Jean-Pierre est plus optimiste, il voit d'un bon œil le renforcement de l'usage des caméras piétons.
En fait, quand ils nous contrôlent, si ça dérape, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de preuve si on est entre nous. Donc avec les caméras, j'espère que ces violences ils seront vues par la hiérarchie supérieure.
Une meilleure concertation avec les quartiers pour recréer du lien avec la police, c'est le souhait de Smaïl Belkacem, président d'une association dans la Cité des Chênes.
Pour moi aussi, il faut écouter aussi les habitants et il faut essayer de trouver des solutions aussi avec. Il y a un manque dans ce sens-là, il y a un manque d'écoute active. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est en écoutant le terrain.
Pour Smaïl Belkacem, c'est justement sur le terrain qu'on verra l'efficacité de ces mesures.
Et c'est dans ce contexte que le site Street Express dévoile de nouvelles captures d'écran, un groupe attribué aux forces de l'ordre et qui réunirait 9000 personnes. On y trouve des messages haineux, racistes. SOS Racisme a saisi le parquet de Paris. Appel à manifester aussi ce soir à 18h, place de la République à Paris, mais aussi à Lille, Dijon, Grenoble, Angers ou encore Bordeaux. Dans l'actualité également, les proches d'Adama Traoré, décédé il y a 4 ans lors de son interpellation, ont décliné l'invitation de Nicole Belloubet. La ministre de la Justice voulait les rencontrer. Hier, le parquet de Paris a par ailleurs confirmé que 2 nouveaux témoins allaient être entendus au mois de juillet par les juges d'instruction. Ils n'ont encore jamais été auditionnés jusqu'ici. Il est celui par qui cette vague de contestation et ce besoin de changement a commencé. George Floyd va être inhumé aujourd'hui à Houston, au Texas, des funérailles en famille. Mais hier, des milliers de personnes ont pu venir se recueillir devant son cercueil. Margot Bédé.
Ils sont les uns derrière les autres, sous un soleil écrasant. Des centaines d'anonymes équipés de masques et de gants attendent de pouvoir entrer dans l'église. Regina en ressort bouleversée.
This heartbroken.
Ça me brise le cœur, je n'ai pas les mots. C'est incroyable de voir tout ce soutien pour notre frère. Notre frère qui est mort.
Le sourire aux lèvres, Walter se souvient de George Floyd avec tendresse.
On l'appelait Big Floyd. C'était juste un gentil géant, une personne humble. Si vous aviez besoin d'un t-shirt, il vous donnait le sien. C'était un esprit plein de joie.
Au rythme de chants gospel, pendant 6 heures, des milliers de personnes se sont recueillies devant le cercueil, tout un symbole pour Aléa.
Sa mort n'est pas vaine. Ça a initié un mouvement et il était temps. Quoi qu'il arrive, les choses vont changer. Elles doivent être différentes.
Les funérailles qui se tiennent aujourd'hui ont lieu dans la banlieue de Houston où George Floyd sera enterré à côté de sa mère.
Moins 1 million de dollars caution fixée hier lors de la première comparution en justice du policier Derek Chauvin, accusé du meurtre de George Floyd. RMC 6h05, il faut tout faire pour éviter un crash social. Le secteur de l'aéronautique paralysé depuis le début de la crise du Covid-19 va se voir injecter une somme colossale, un plan pour tenter de sauver le maximum d'emplois. Pierre-Yves Bonneau.
Des dizaines de milliers d'emplois sont en danger en France, selon les syndicats. Chez Airbus d'abord, 47 000 salariés et des cadences en baisse de 30%, mais surtout chez ses sous-traitants, plusieurs centaines de PME, qui n'auront peut-être pas les reins assez solides pour survivre. De Richebourg, par exemple, basé près de Toulouse, qui prépare un plan social, jusqu'à 700 emplois menacés. Le groupe d'AER pourrait se séparer de 1 500 salariés. Quant à la Técovert, l'équipementier est quasiment à l'arrêt depuis le début de la crise. Pour éviter une catastrophe sociale, le gouvernement doit annoncer un plan à l'image de ce qui a été fait pour l'automobile. 3 objectifs: faire repartir le trafic, amortir les effets de la crise, puis relancer l'activité vers les énergies vertes, notamment avec des contreparties pour éviter les délocalisations et même relocaliser l'activité en France si possible.
7 millions, c'est le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le monde. La situation s'aggrave, dit ce matin le patron de l'Organisation mondiale de la santé, essentiellement donc sur le continent américain et en Asie du Sud. En France, le dernier bilan ces dernières 24 heures s'élève à 54 morts. À retenir aussi, une évacuation express hier soir à Metz. Une cinquantaine de détenus du centre pénitentiaire ont dû sortir du bâtiment après la découverte d'une fissure dans le sol. Ils ont tous été réintégrés dans d'autres secteurs de détention. Football, la fin d'une histoire, celle entre Thiago Silva et le PSG. Le contrat du Brésilien se termine le 30 juin. Il va être prolongé de 2 petits mois le temps de finir la saison de Ligue des Champions. Les supporters parisiens sont partagés.
Je suis hyper triste de son départ. Il a incarné le PSG pendant quelques années avec le Capitana et c'est un grand défenseur et il manquera à Paris.
C'est une nouvelle un peu déplorable. Il reste quand même un peu l'un des meilleurs défenseurs en fait, du PSG actuellement.
Je suis déçu, mais il a fait un peu son temps, je trouve. Parce qu'à un moment, il était fort, mais là, la forme, elle est un peu finie. S'il joue un dernier match avec les supporters, ça serait parfait. Je serais là et on l'encouragera en tout cas.
Oui, moi, je suis triste.
C'est vrai ?
Oui.
Vous êtes triste. Et vous, Charles, supporter du Paris Saint-Germain ?
Je vais pleurer pour lui rendre hommage. Voilà. C'est comme ça que je vais manifester mon hommage à
Charles Magnin, Mathieu Roux.
Ça va ?
Ça va, Mathieu.
Oui, ça va. Très bien.
Notre jeu, je vais commencer avec notre jeu. Vous voulez ?
Oui.
Allez, je vous offre 500 euros tous les mois pendant un an. Ça fait 6 000 euros. Hein, vous le savez, c'est un beau cadeau que je vous fais. Pour cela, c'est pas compliqué. Vous répondez à la question que je vous pose.
C'est le meilleur dans ce jeu. C'est la question.
Allez, c'est la question. Quel club a été sacré champion de France de football cette année? Est-ce 1, le Paris Saint-Germain, ou 2, le Nîmes Olympique? Vous me dites 1, PSG, 2, Nîmes Olympique.
Il y a un piège.
Vous avez la bonne raison. La bonne raison. Oui, la bonne raison, ce serait le 2. Mais la bonne réponse, envoyez 1, PSG, et 2, pour Nîmes Olympique, par SMS au 7-32-16. Le gagnant ou la gagnante avec moi, vendredi matin, le 12 juin, il y aura un tirage au sort. J'ai hâte de savoir qui va gagner ces 6 000 euros vendredi matin. Bien, voilà, c'est fait. On y reviendra tout à l'heure. Je ne vais pas oublier le jeu ce matin parce que quand même, je me sens concerné. Il est 6h09, vous êtes sur AMC. Allez, avant de partir en reportage avec Nicolas Trénaud et Gladys Lafitte qui ont suivi une patrouille de police en banlieue parisienne à Sarcelles dans le Val-d'Oise hier, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Christophe Castaner hier en conférence de presse, qui sera mon invité tout à l'heure et qui va détailler tout ce qu'il a dit hier. Et j'ai plein de questions à lui poser, évidemment, 8h30, 9h. La technique d'étranglement, d'abord, qui ne sera plus enseignée ni appliquée par les policiers. On se demande à partir de quand, d'ailleurs. Je poserai la question à Christophe Castaner. C'est quoi cette technique, Quentin Vinet ?
Alors, c'est une technique de combat que l'on retrouve dans les arts martiaux, que l'on retrouve aussi au judo. Elle consiste à maîtriser un individu avec son coude en lui enserrant le cou. Elle permet d'immobiliser un suspect et de l'accompagner à terre. Mais c'est une technique qui est dangereuse, qui présente des risques, surtout lorsque l'étranglement dure longtemps. Et quand on dit longtemps, c'est quelques secondes, parfois qui suffisent pour empêcher l'air et le sang de circuler au niveau du cou. Si la personne interpellée se débat, en fait, elle peut rapidement se retrouver en manque d'air. Alors, cette technique est controversée, elle est enseignée chez les policiers et au sein de l'armée également, mais elle est défendue par les syndicats de forces de l'ordre. Ils expliquent que c'est la seule technique qui permet aux agents de maîtriser un individu dont le poids est supérieur. Ils craignent donc d'en être réduits à des combats de rue ou à l'utilisation d'un taser, si on en vient donc à la fin de cette technique de l'étranglement.
Bien, 6h10, le défenseur des droits, Jacques Toubon, pointe du doigt une crise de confiance des citoyens envers les forces de l'ordre. Et les exemples publiés ces derniers jours sont éloquents, avec ces groupes Facebook où des forces de l'ordre s'échangent des messages racistes, la diffusion de propos racistes de policiers de Rouen, etc., sur le terrain. Mais tous les policiers ne sont pas racistes, ni les gendarmes. Évidemment, certains le sont. Mais la majorité des policiers ne le sont pas. Sur le terrain, comment les policiers vivent-ils cette défiance ? Que pensent-ils des annonces de Christophe Castaner, Nicolas Traîneau et Gladys Laffitte ont donc suivi une patrouille de police en banlieue parisienne à Sarcelles hier, dans le Val d'Oise.
Depuis 4 ans, Sofiane est policier dans le Val d'Oise.
On va arriver sur le secteur de la gare, de gare Charcelles.
Lui et ses deux collègues, Vincent et Nicolas, vivent mal les accusations de racisme dans la police. Ils souhaitent que tous ne soient pas mis dans le même panier.
Ça m'est déjà arrivé de me faire insulter de raciste. C'est des choses que j'accepte pas du tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses. Elles sont sanctionnées à juste titre.
Dès l'instant où il y a un acte qu'on considère comme étant des violences policières, ben, tout de suite, tous les policiers sont des porcs, tous les policiers sont des racistes, et c'est assez dommage et écœurant.
Même incompréhension face aux accusations de violences policières.
Individu interpellé.
Pour Sofiane, le discernement guide les interpellations.
C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, avec l'expérience, donc c'est pour ça que dans un équipage, on essaye beaucoup d'avoir des anciens.
Des interpellations parfois musclées qui nécessitent l'utilisation de la technique dite de l'étranglement, explique Sofiane, technique dorénavant abandonnée sur décision du ministère de l'Intérieur.
Pour moi, c'est pas possible. Quand on est sur des individus qui sont vraiment véhéments, c'est une technique qui est très très utile, qui sort du judo. Donc faudra qu'on m'explique vraiment comment on va remplacer cette technique.
Leur quotidien, c'est aussi le lien avec les habitants et leur protection. Exemple hier chez cette dame en détresse.
J'appelle la police, ils m'accrochent au nez.
Bah non, regardez, on est ici. C'est parce que vous avez appelé la police, donc on est venu.
Un lien qui s'est distendu, constate Nicolas.
Heureusement qu'on a encore ce lien-là, mais plus ça va, plus on peut avoir le sentiment que ça commence à se fracturer. À une période de ma vie, je faisais pas mal de sport et je sais que je passais pas mal de temps à aller dans des foyers d'accueil, des choses comme ça pour initier le sport à des jeunes, voilà, pour occuper un petit peu leur journée. C'est des solutions.
Début juillet, Christophe Castaner présentera les conclusions du livre blanc de la sécurité intérieure et du schéma national du maintien de l'ordre pour construire, dit-il, une police de la confiance.
Il est 6h12, merci d'être avec nous. Laurent réagit, Laurent, notre auditeur fidèle de Sainte-Cécile-les-Vignes dans le Vaucluse. Bonjour Laurent.
Bonjour Jean-Jacques.
Ça va Laurent, vous roulez là ?
Oui, ça roule.
Au boulot ?
Eh oui, il faut bien. Hein.
Bon. Alors, ces débats autour du racisme dans la police, que dites-vous ?
Bon, bah, déjà, on va pas nier qu'il y a peut-être des éléments qui sont racistes dans la police, mais pour moi, il n'y en a pas plus dans la police que chez les maçons, chez les routiers, chez les VRP. Oui. Si d'aller dans les discussions de comptoir, dans les bars de village, je peux vous dire que, entre guillemets, c'est pas que dans la police. Et moi, je trouve qu'en ce moment, depuis 2018, je vais être cash, Jean-Jacques, ça va choquer certaines personnes, j'assume. Depuis les Gilets jaunes, on est anti-flic en France. C'est la mode. On fait le buzz. Ça sert certaines personnes politiques. Et voilà, c'est bien, parce que ben, la police française, c'est des fachos, c'est des racistes, et ils sont là pour taper sur le peuple. Je suis pas d'accord. Alors, quand j'ai entendu votre invité l'autre jour, M. Kassovitz, hein, j'ai hurlé, hein, j'ai failli arracher l'autoradio.
C'est pas le mien, hein, c'était dans les grandes gueules.
Oui, c'était dans les grandes gueules, excusez-moi. Oui. J'ai failli sauter par la fenêtre.
Oui.
Donc, c'est pas mal son idée. Ouais, en janvier, ils vont se promener en tutu et ils vont distribuer des fleurs. Et après, les Français vont râler parce qu'il y a insécurité, trafic de drogue. Oui. Alors, il faut savoir ce qu'on veut.
Oui.
Il faut savoir ce qu'on veut, mais on ne se pose pas la question sur les groupes Facebook ou réseaux sociaux anti-flics. À ça, personne n'en parle, c'est pas la mode. Je sais pas, ça me perturbe. Après, je nie pas hein, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe en France. C'est inadmissible. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas d'amalgame. Alors, il ne faut pas faire d'amalgame quand on parle des jeunes des cités qui sont tous des voyous ou des trafiquants de drogue. Par contre, la police, c'est tous des racistes, c'est tous des fachos. Je suis pas d'accord. Moi, ça me rend dingue, ça.
Bien, merci beaucoup, Laurent. Merci.
Si vous permettez, Jean-Jacques, j'aurais juste voulu passer un petit bonjour à trois personnes qui, à chaque fois, me disent « T'es pas sympa, tu nous as pas fait le coucou. » Donc, passez un coucou à Corinne, à Christian et à Seb.
Bon, ben, c'est génial. Vous avez raison, Laurent. Merci. Passez une belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir, Laurent. Il est 6h14. Vous êtes sur RMC à 6h14. On va faire un peu de pub et on se retrouve dans un instant. Tiens, je vais parler aussi des taxis ce matin. Vous savez combien nous sommes proches des taxis, les taxis qui réclament le maintien de l'aide gouvernementale jusqu'à la reprise touristique. Et c'est vrai que ça n'a pas vraiment repris pour eux. À tout de suite.
RMC. Bourdin Direct.
Un autre sujet vous fait réagir ce matin, la décision chez Bombardier dans le Nord. La direction demande à ses salariés de renoncer à une semaine de vacances pour rattraper le retard après le confinement, semaine qui serait payée double avec une prime. Stéphane nous dit, ils sont toujours à se plaindre d'une entreprise qui essaie de sauver ses emplois, qui propose à ses salariés d'être payés double avec la prime. Je vois pas où est le scandale, nous dit Stéphane. William dit, comment ça, ses salariés, les syndicats blanquent l'entrée du site parce que le RRTT ne va pas être payé, tu sors de 2 mois de congé presque payé et tu râles pour une semaine. Encore une fois, les syndicats français dans toute leur splendeur, selon Stéphane. Thierry dit aussi que ce sont des syndicats qui préfèrent qu'une entreprise licencie. Qu'est-ce qu'ils préfèrent finalement, dit Thierry ? Qu'une entreprise licencie ou que les salariés sacrifient une semaine de vacances ? C'est vrai que c'est la question qu'on peut vous poser aussi au 32-16. Geoffrey répond, moi j'ai déjà assez fait d'efforts, j'ai travaillé pendant tout le confinement, je n'ai pas eu de prime, donc je ne ferai pas de cadeau à mon patron. Et vous, est-ce que vous sacrifieriez une semaine de congé payé ? 3216rmc.fr pour nous rejoindre ce matin.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct. Et 6h19, on parle beaucoup de cette semaine de vacances payée plus cher, mais donnée par les salariés à leur entreprise. Ce sont les salariés de Bombardier, près de Valenciennes, qui sont en colère. Ils bloquent leur usine depuis hier. Pourquoi ? Ben, la direction leur demande de renoncer à une semaine de congé fin juillet pour rattraper le temps perdu pendant le confinement. Quentin Vinet.
Oui, alors c'est ça, le site en question, c'est le premier site ferroviaire de France, ouvert il y a près de 30 ans, 1500 employés sur place, des centaines d'intérimaires. C'est un site qui est rentable, plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Un carnet de commandes qui, en plus, est plein, mais un site qui va être vendu. Alors, la direction propose donc aux salariés de renoncer à cette semaine de congé, une semaine qui serait payée double fin juillet, plus une prime de 200 euros, parce que les circonstances sont exceptionnelles, dit la direction, mais, étant donné que l'usine a été fermée pendant 2 mois. Mais le site va être vendu et les syndicats sont inquiets, ils ne veulent pas faire des efforts pour leur futur ex-employeur, comme ils disent.
Imposé, oui, parce que la mariée sera plus belle si ça produit beaucoup, évidemment. Imposer les dates de congé, est-ce que c'est légal ?
En temps normal, oui. Un salarié doit pouvoir prendre... En temps normal, non. Un salarié doit pouvoir prendre 2 semaines consécutives pendant l'été. Une fois que ces congés sont fixés, l'employeur ne peut pas y revenir. Mais la loi dit aussi que tout change en ce moment avec les circonstances exceptionnelles et une ordonnance est venue bousculer cette règle. C'était à la fin du mois de mars. Elle dit que désormais, les congés d'été peuvent être prises en juillet, en août, mais aussi à l'automne, en septembre, en octobre. La période a été allongée, les règles ont été assouplies. L'employeur a le droit donc d'imposer jusqu'à 6 jours de congé, de fixer une période et même de décaler jusqu'à 10 jours de RTT.
Bien, merci Quentin. Vous continuez à réagir, 6h21. Didier Augrel est avec nous, président de la Fédération Nationale du Taxi. Didier Augrel, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos auditeurs.
Merci Didier, je pense à tous les taxis qui m'appellent beaucoup, en province notamment, dans les villes de province, qui m'appellent beaucoup en me disant, ou même dans les petites communes rurales, en me disant, on a beaucoup moins d'activités qu'habituellement, dans les grandes villes de province, les aéroports sont souvent fermés, on n'a plus de travail, donc nous réclamons le maintien de l'aide gouvernementale jusqu'à la reprise touristique. Maintien jusqu'à quand ? Didier Augrel.
Alors, on voudrait être aligné comme toutes les professions liées au tourisme. Hein, le gouvernement prévoit ce maintien jusqu'en décembre 2020. Alors, effectivement, c'est sous condition, hein, puisque il y a des seuils, il y a des seuils de chiffre d'affaires à faire pour bénéficier de ces aides. Et donc, nous, on demande à être classés comme en profession touristique, comme les touristes, parce que le gouvernement, pour l'instant, ignore les taxis, malgré que l'activité, on va dire, liée au tourisme représente 90% de notre activité.
Vous êtes les oubliés du plan tourisme, quoi, si je comprends bien.
Voilà, tout à fait. Nous sommes les grands oubliés du plan tourisme. En plus, donc, bon, l'État a mis toute une batterie d'aides pour les entreprises qui étaient liées, qui avaient subi des fermetures administratives. Mais même au sein de notre même profession, nous avons des gens qui n'ont pas été frappés de fermeture administrative, mais où leur lieu d'exploitation ont été frappés de fermeture administrative. Je pense aux aéroports, aux parcs d'attractions, pour ne citer que Mickey, par exemple, ou les grands aéroports où il n'y avait plus d'avions, et donc les taxis ne pouvaient plus travailler puisqu'ils n'avaient plus de clientèle, mais malgré tout, ils sont les oubliés de toutes ces aides.
Oui. Vous avez bénéficié de l'aide de 1500 euros par mois, hein?
Comme toutes les entreprises pendant 2 mois, donc pour bénéficier de cette aide, il fallait faire plus de moins minimum 50% de chiffre d'affaires en moins, donc que le chiffre d'affaires qui était dégagé avant. Voilà, mais bon, là, voilà, les aides s'arrêtent, mais pour nous, la reprise n'est pas là du tout, quoi.
Mais bien sûr. Je regarde et je remarque que les VTC veulent aussi bénéficier de ce plan d'aide au tourisme.
Alors ça, les VTC, bon, c'est... Bon,
c'est logique, je vais ou pas...
Bah écoutez, la profession du T3P, de toute façon, est touchée. Donc il y a une certaine logique, mais je suis pas là pour parler de ces gens-là qui ont beaucoup d'illogisme dans leur activité.
Oui, d'accord. Il y a une forme de logique, mais en même temps, bon, vous dites, comme ils sont pas très logiques dans leur activité, bon, d'accord. J'ai compris, Didier Augrel. Bon, vous avez rendez-vous, vous avez avec le gouvernement ou pas, là, à ce propos?
Alors non, on essaye donc depuis déjà plusieurs mois, on essaye d'alerter le gouvernement sur nos problématiques. Celui-ci fait la sourde oreille, hein, pour l'instant, on n'a aucune réponse. Il va y avoir un projet de loi de finances rectificatives, donc qui va fixer les règles, qui va être présenté début juin. Bon, bah, pour l'instant,
présenté demain.
Voilà, il est présenté le 10 juin. Bon, ouais. Ben, pour l'instant, on a beau écrire un peu partout, personne ne nous répond, on ne semble pas avoir été entendu, et on espère, sur la portée de votre audience, Jean-Jacques, qu'on s'intéresse un peu à notre sort.
J'espère aussi, parce qu'il ne faut pas vous oublier. Merci beaucoup, Didier Augrel. Hein. Merci. Il est 6h25, tous les matins, 3 histoires et 3 images. Avec Charles Magnin. Charles, la mobilisation ne faiblit pas aux États-Unis, alors que les obsèques de George Floyd auront lieu aujourd'hui à Houston, Texas.
Et l'image symbolique du jour nous vient du Congrès américain, où les parlementaires démocrates se sont réunis hier dans le hall de l'émancipation et ont posé un genou à terre pendant 8 minutes et 46 secondes, soit le temps qu'a passé George Floyd au sol avec le genou du policier sur son cou. Des parlementaires agenouillés pendant près de 9 minutes au Congrès. L'image est évidemment très symbolique et très politique. Et puis la mobilisation se poursuit aussi dans les rues américaines sous différentes formes. On a par exemple assisté hier à un nouveau type de manifestation, la manifestation à skateboard. Ça se passe à Philadelphie. Des centaines d'adeptes de la planche à roulettes ont défilé dans les rues. C'est assez pratique pour respecter les distances physiques et puis ça permet de boucler la manif plus rapidement. Enfin, autre forme
de
protestation.
De
et de faire un peu de sport au passage.
Ouais, bah
autre
bien,
forme
ouais.
de protestation contre Donald Trump, celle de Victor Willis, que vous connaissez mieux dans son costume officiel de policier des Village People. Victor Willis a publié un long texte sur Facebook dans lequel il demande à Donald Trump de cesser d'utiliser ses chansons dans les meetings politiques, hein, plus de YMCA ou de Macho Man sur scène pour Donald Trump.
Ben on écoute un peu de musique, ça fait du bien, on a le temps.
Ça fait du bien.
6h26, on a le temps, Charles, attendez.
Un peu de Village People.
Bon. Et si nous parlions de Bugs Bunny, qui ne sera, alors là, non, mais c'est le politiquement correct dans toute sa splendeur, qui ne sera plus chassé avec un fusil.
Plus d'armes à feu dans les dessins animés Looney Tunes. Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi et Gros Minet font l'objet d'une nouvelle série diffusée en ce moment aux États-Unis avec un changement majeur. Plus de fusils ni de pistolets à l'écran. Elmer, le chasseur qui court après le lapin Bugs Bunny, est désormais armé d'une faux, c'est pratique pour chasser le lapin. Son fusil a disparu. Il s'agit, selon les scénaristes, de s'adapter aux sensibilités modernes. Le politiquement correct a eu raison du fusil de chasse. Plus question de voir un chasseur tirer sur un animal à l'écran. Et on peut déjà imaginer qu'à l'avenir, un coyote arrêtera de courir après Bip Bip s'il devient vegan.
Non, ben, plus un flamand est rose, plus il est agressif, Charles.
Info qui peut servir cet été, ouais, si vous en croisez un. Jean-Jacques, étude, ouais, anglaise qui s'est penchée sur les différentes nuances de rose chez le flamand nain. Conclusion, les flamands les plus roses sont ceux qui ont une meilleure santé, une santé qui dépend de la qualité de leur alimentation. Or, pour bien se nourrir, le flamand doit jouer des coudes, être le plus agressif possible envers ses congénères afin d'obtenir la meilleure part du repas et donc cette belle couleur rose. Bref, vous l'avez compris, je m'identifie parfaitement au flamand rose.
Ah bon?
Ah oui. Agressif quand on parle de nourriture. Et puis j'ai bonne mine après le repas.
Je mens. Bon, enfin bon. Bon, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Témoignage, je
n'en pense plus grand chose là.
Bon, d'accord. Il est 6h28. Qu'allons-nous faire après le
boire
journal?
Boire un café, non?
On va boire un café, ouais, d'abord.
Ah oui, bah avec plaisir. D'abord, on prend le café. Oui.
Allez, le café, c'est le 32-16 et la touche 5 pour gagner la machine et les capsules qui vont avec.
Et donc, le mot matin par SMS. Le mot matin, SMS 732-16.
Et puis après, on en finira, Mathieu, dans les 5 prochaines années, oui, avec la chasse à courre, la chasse à glu, la chasse à la tenderie. C'est ce que propose une 60aine de parlementaires au nom du bien-être animal. Loïc Dombreval, député La République En Marche des Alpes-Maritimes, va nous exposer ses arguments juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Et puis, on parle beaucoup de racisme ce matin, mais j'ai été frappé par ce qu'a déclaré le président de la Ligue de Défense Noire Africaine. C'était lors de la dernière manifestation de samedi. Je le cite, il a pris le micro et il a dit « Arrêtons d'aller consommer chez les Blancs, dans les magasins de Maghrébins, dans les magasins de Chinois. Il faut aller dans nos magasins. » Si ce ne sont pas des propos racistes, cela, je ne sais pas. J'en parlerai au président d'SOS Racisme tout à l'heure à 8h10. Il est l'ami, juste Anne-Sophie Balvire est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Redorer le blason de la police, tenter d'éteindre le feu qui couve. Christophe Castaner annonce des mesures pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre, à la clé notamment l'abandon de la méthode d'étranglement. Les aides pourraient atteindre jusqu'à 10 milliards d'euros. Le gouvernement dévoile son plan pour l'aéronautique. À Blagnac, siège d'Airbus, toute la ville espère reprendre son souffle. Et puis, vous êtes 56% à vouloir partir en vacances cet été, mais vous n'avez pas encore réservé. Situation inédite dans un contexte d'incertitude à cause, évidemment, du Covid. RMC 6h31. Face aux accusations de violence et de racisme dans les rangs des forces de l'ordre, après les manifestations en écho à la mort de George Floyd, Christophe Castaner réplique. Hier, en conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a annoncé plusieurs mesures, notamment l'abandon d'une technique d'interpellation controversée, la méthode dite de l'étranglement au cœur de l'affaire Cédric Chouviat, ce livreur mort à Paris en janvier dernier, Romain Cluzel.
Malgré l'interdiction de la clé d'étranglement, maître Vincent Bringart, l'un des avocats de la famille Chouviat, n'est pas totalement convaincu.
Il y a évidemment pour la famille de monsieur Cédric Chouviat une satisfaction de voir que les choses avancent, mais victoire aussi en demi-teinte parce que d'autres techniques demeurent, et y compris le plaquage ventral.
Selon la famille, ce plaquage ventral a également participé au décès de Cédric Chouviat, mais immobiliser un individu à terre peut être indispensable, défend Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.
Quand un individu ne se laisse pas interpeller, il faut forcément le conduire au sol pour le menotter. Certains policiers peuvent faire un point de pression le temps de mettre les menottes et il faut que ça dure le minimum de temps.
Avec la disparition de la technique de l'étranglement, les moyens des policiers seront plus limités. L'interpellation pourrait même s'avérer impossible, affirme Grégory Joron du syndicat de police SGPFO.
Comment on interpelle quelqu'un qui veut réellement pas se laisser faire? Dire ça, c'est des questions opérationnelles qui sont très basiques, mais qui pourtant vont forcément inquiéter très rapidement mes collègues, puisque de fait, on va se demander s'il va falloir chatouiller les personnes pour qu'elles se laissent faire.
Le policier demande qu'une alternative soit proposée aux forces de l'ordre pour ne plus utiliser la clé d'étranglement.
7h10 avec nous tout à l'heure dans ce studio, le père de Cédric Chouviat, Christian Chouviat.
Et pour les policiers qui tiennent des propos racistes, suspension systématique, a tranché Christophe Castaner. Alors, est-ce que ce sera vraiment le cas alors qu'on a appris hier l'existence d'un nouveau groupe Facebook réunissant des membres des forces de l'ordre avec là encore des propos racistes? Révélation du site d'information Street Press, Benoît Ballet.
Oui, un groupe Facebook nommé FDO 22 Uni, FDO pour Forces de l'ordre, et qui réunit 9000 personnes, dont beaucoup sont membres de la police, selon Street Press, un groupe privé. Mais à la différence du précédent groupe Facebook, dont l'existence a été été révélé jeudi dernier par le site d'information. Une simple recherche ne suffit pas à trouver celui-ci sur le réseau social pour voir ce qui s'y dit et pouvoir y publier. Il faut être invité. Street Press dit ne pas avoir pu intégrer ce groupe, mais publie des captures d'écran envoyées par un des membres. L'actualité policière est au premier plan et les propos racistes sont nombreux. Le cas du jeune Gabriel, 14 ans, blessé à l'œil lors de son interpellation le 25 mai, est moqué avec le florilège suivant « Bien fait pour sa sale gueule, s'il te plaît, messieurs, moi pas voleur » ou encore « Vu la tronche, c'est du rhum de Serbie, ils en sont infestés dans les pays de l'Est ». SOS Racisme a annoncé hier avoir saisi le parquet de Paris afin qu'une procédure judiciaire soit ouverte sans délai concernant ce second groupe Facebook.
Benoît Ballet, merci. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera votre invité, Jean-Jacques, à 8h30 sur RMC et BFM TV. Et puis, notez qu'à Lille, Grenoble, Dijon, Amiens ou Paris, nouveau rassemblement et hommage à George Floyd à 18h au moment où auront lieu ses obsèques à Houston. Autre mobilisation, celle des soignants. Nouveau mardi de la colère aujourd'hui à l'appel de la CGT. Façon de maintenir la pression sur le gouvernement qui a ouvert il y a 2 semaines le Ségur de la Santé. Thomas du collectif Interurgence sera là, lui qui travaille depuis 17 ans à l'hôpital et qui dénonce depuis des années les mêmes problèmes.
Ce dimanche, j'ai une personne âgée qui a émis le besoin de parler, de rester avec une présence. Et la seule réponse que j'ai pu lui apporter, vu la charge de travail, c'est « je suis désolé, mais là, j'ai pas le temps de vous écouter ». Et malheureusement, je ne peux pas faire mon travail, du coup, sous tous ces aspects. Le collectif Interurgence a commencé le mouvement il y a plus d'1 an maintenant. On ne pensait pas qu'on devrait se battre aussi longtemps pour des choses aussi évidentes. Donc il y a la colère mélangée à la lassitude, ça commence à être un peu épuisant aussi.
L'exécutif est aussi attendu au tournant par la filière aéronautique, hein, en plein marasme depuis la crise du Covid. 80% des avions sont toujours cloués au sol. Un plan est dévoilé aujourd'hui. Les annonces seront suivies avec attention à Blagnac, siège d'Airbus. Jean-Wilfried Forquès.
Comme tous les commerçants de Blagnac, Jean-Christophe, restaurateur, scrute de près la situation de l'avionneur européen.
80% de notre clientèle viennent d'Airbus et de sous-traitants. On est très inquiet de ce qui va se passer, puisque forcément tout ce qui impactera l'aéronautique ici à Toulouse, principalement à Blagnac, nous touchera nous personnellement, puisqu'on travaille avec eux, et ça fait on a peur de l'effet boule de neige, de l'effet domino.
Une situation qui préoccupe également Joseph Karl, le maire de cette commune de 25 000 habitants, met la pression sur les responsables d'Airbus.
Demain, après-demain, l'aéronautique redémarrera. Il faut faire en sorte qu'on ne sacrifie pas aujourd'hui le savoir-faire de la chaîne des sous-traitants. Pas simplement du donneur d'ordre qui est Airbus, mais aussi de toute cette chaîne de sous-traitants qui a une capacité extraordinaire à innover, à inventer, à se réinventer aussi.
Hier, en attendant les mesures gouvernementales, des élus des principales villes de la région ont écrit au PDG d'Airbus pour lui demander de maintenir ses projets, car selon eux, l'aéronautique fait partie de l'ADN de la région.
L'épidémie de coronavirus continue de s'éloigner lentement, mais il faut bien sûr rester prudent. D'ailleurs, les Français semblent un peu frileux concernant les vacances d'été, selon un sondage BVA. Juliette Pietraszewski.
Pour l'instant, 56% des personnes envisageant de partir n'ont pas encore réservé. Une situation inédite dans un contexte d'incertitude. Cette année, le peu de Français qui souhaitent partir à l'étranger poseront majoritairement leurs valises en Europe du Sud, plus précisément en Grèce, en Espagne ou encore en Italie, des pays dont les frontières sont ouvertes. En France, les nombreux vacanciers seront en grande majorité sous leur parasol, sur les plages allant de la Bretagne au Pays Basque, mais aussi sur le littoral méditerranéen. Selon les entreprises du voyage, les Français préfèrent ne pas s'éloigner de leur domicile suite au confinement ou encore avoir un système hospitalier rassurant à proximité.
Les courses, Mathieu, c'est à Nantes.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Favori numéro 14, Eos Kerkus. Outsider numéro 10, Classic Pearl. Le 14 et le 10.
La situation s'aggrave. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Quelle situation? Eh bien, la crise du Covid-19, le coronavirus. On a l'impression que chez nous, c'est terminé. Eh bien non, ce n'est pas terminé chez nous. Le virus circule encore, mais absolument à bas bruit, donc pas de risque majeur. Mais l'OMS rappelle que nous en sommes à 6 mois de pandémie et que ce n'est pas le moment de lever le pied parce que le virus continue de faire le tour du monde. Le bilan dépasse ce matin les 400 000 morts, Quentin Vinet.
Et la situation s'aggrave en Amérique latine, c'est le nouvel épicentre, et en Asie du Sud, plus de 130 000 cas ont été recensés lors des 10 derniers jours, essentiellement dans ces régions. Il y a plus de 37 000 morts, par exemple, au Brésil. Et là-bas, le président, Jair Bolsonaro, est accusé de manipuler les chiffres.
Ça va mieux aux États-Unis?
Oui, voilà, ça va mieux. 450 morts en 24 heures aux États-Unis. Là-bas, les signaux sont positifs. C'est le chiffre le plus bas enregistré depuis maintenant 2 mois. On est loin des 3000 décès quotidiens au plus fort de la crise côté américain.
En Europe?
En Europe, ça va mieux aussi. 54 morts en France lors des dernières 24 heures. Et les chercheurs britanniques estiment qu'on a sauvé près de 3 millions de vies avec le confinement en Europe. Parce que les taux de transmission du virus sont passés de très élevés à des niveaux plus acceptables en seulement quelques semaines.
Pendant ce temps-là, tout est fini à l'autre bout du monde.
Oui, c'est ça. La Nouvelle-Zélande est le premier pays à tourner officiellement la page du coronavirus. Il n'y a plus aucun malade depuis hier. Toutes les restrictions sont donc levées. La vie va reprendre comme avant avec, par exemple, du public ce week-end dans les stades de rugby.
Vous appelez 3216, notre lien. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous le matin. Jérémy est à Lavore dans le Tarn. Bonjour Jérémy.
Allô?
Oui Jérémy, la radio ou la télé le matin?
Plutôt la radio.
Plutôt la radio, Jérémy. Merci d'être avec nous. Fidèle, vous dites qu'il faut arrêter de s'en prendre à la police.
Exactement. Moi, j'abonde complètement dans le sens de Laurent, votre précédent auditeur.
Oui.
Ça fait plusieurs années que plus ça va et plus le moindre prétexte, on tape sur la police.
Oui.
Après, pour ce qui est de l'enlèvement de certaines techniques, par exemple la technique d'étranglement...
Oui.
Je vais prendre mon cas personnel. Je mesure 1m90, je pèse 110 kilos.
Oui.
J'ai fait plusieurs années de rugby et de boxe.
Oui.
Si on leur enlève toutes les méthodes un peu virulentes, comment ils font pour m'interpeller?
Oui, oui. Ouais.
Ça va vite devenir compliqué.
Oui, ça fait débat d'ailleurs, cette technique d'étranglement. Parce que technique peut être utile pour interpeller, évidemment, et pour pouvoir passer les menottes. Parce que l'objectif, c'est de passer les menottes à celui qu'on interpelle, ça. Effectivement.
Si un jour ils ont besoin de recourir à ça, je ne me laisserai sûrement pas faire. Donc il faut bien qu'ils m'immobilisent d'une manière ou d'une autre.
D'une manière ou d'une autre. Merci Jérémy. Ali.
Merci à vous.
Merci Jérémy, c'est sympa. Ali.
Passez une bonne journée.
Salut Jérémy, vous aussi. Ali est dans l'heure. Bonjour Ali.
Oui, hello, bonjour Monsieur Bourdin.
Ça va, la radio, la télé le matin?
Là, j'ai un petit peu de chance. Aujourd'hui, je commence à plus tard. Bon, là, je suis à la maison. Là.
Vous êtes à la maison devant la télé, oui. Oui.
Donc ce que je voulais dire moi, c'est qu'en France, tout le monde soutient la police et la gendarmerie. Oui. Moi, ça fait plus de bientôt 4 ans que je soutiens le comité Adama. Je me suis rendu à toutes les manifs. Elles se sont toujours bien passées. Moi, ce que je voulais dire, c'est faut arrêter de dire que on dénigre la police. Non, c'est pas, on dénigre pas la police ni la gendarmerie, aucune force de l'ordre. On les soutient, les policiers. Tout le monde a besoin de la police et des gendarmes. Mais c'est les brebis galeuses, ceux qui affectent le corps des forces de l'ordre et qui sont pourris dans l'âme. Donc nous, ce qu'on voulait dire, c'est que il y a personne qui dit que la police n'est pas républicaine, qu'il y a que des racistes dans la police. C'est faux,
certains le disent. Pas
non,
vous,
non,
mais certains.
Monsieur Bourdin, ceux qui disent ça, ils sont complètement à côté de la plaque.
Oui.
Donc pourquoi les syndicats, chaque fois qu'on entend les syndicats à la radio, à la télé, ils soutiennent immédiatement leurs collègues. Des fois, ils sont même pas au courant de l'affaire à 100%, ils soutiennent directement leurs collègues. Pourquoi les syndicats, par exemple, ils ne disent pas que dans leur rang, il faut qu'ils éjectent les brebis galeuses? Pourquoi il y a un corporatisme incroyable comme ça? Nous, si vous faites une faute, moi, dans mon entreprise, si je fais une faute, je vais te virer.
Oui, bah évidemment.
Mes collègues vont dire, Ali, ce que tu as fait là, c'est pas correct.
Bien sûr.
Dans la police, ça se passe pas comme ça. Donc, pourquoi les syndicats de police, il faut qu'ils font le ménage dans leur sein. Personne ne dénigre la police en France, ce n'est pas vrai. Et en plus, quand on dit tout le monde déteste la police, c'est un cri de rage, ça. Quand vous avez fait tous les mouvements pacifiques que vous pouviez, et qu'en face, on vous répond par du LBD, du lacrymogène, eh ben, vous explosez, vous dites un petit peu n'importe quoi. Mais je connais personne, moi, qui ne soutient pas la police en France.
L'immense majorité de la population.
Vous la police. Virez les brebis galeuses.
Bon, d'accord, merci Ali.
Voilà.
Merci.
Bon, merci, au revoir.
Je suis content d'entendre ça, parce que c'est vrai que l'immense majorité de la population soutient police et gendarmerie. 6h42. Allez, à tout de suite. Je suis dans un instant avec Loïc Dombreval, le député des Alpes-Maritimes de La République En Marche, qui veut absolument, avec une 60aine d'autres parlementaires, mettre fin aux chasses traditionnelles. À tout de suite.
RMC.
RMC 6h-9h.
Bourdin en direct.
Bien, il est 6h45. Si nous parlions des chasses traditionnelles, oui, certaines chasses que vous ne connaissiez pas, et moi non plus d'ailleurs. Loïc Dombreval, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, député de la République En Marche des Alpes-Maritimes. Vous demandez l'arrêt de certaines chasses traditionnelles. Alors, ce que nous allons faire, vous êtes une soixantaine de députés. Combien exactement ?
63, exactement.
63 députés de toutes tendances. Hein,
et sénateurs également, d'ailleurs. Et sénateurs,
et la gauche, les Républicains, la République En Marche, enfin bon, vous demandez de mettre un terme aux chasses traditionnelles. Les chasses traditionnelles, regardons, citons certaines de ces chasses. Le déterrage des blaireaux et des renards. Ça s'appelle la vénerie souterraine, qui consiste à extraire l'animal de son terrier. Comment fait-on pour l'extraire de son terrier?
On commence par creuser, on envoie les chiens, ça s'agite dans le terrier, l'animal commence à sortir, on l'attrape avec une pince en métal, on l'extrait avec une pince en métal du terrier et on l'abat ensuite au fusil ou à la dague. Ou alors, on le laisse dévorer par ses chiens. C'est une méthode assez sympathique.
Oui, ça c'est je ne savais même pas que ça existait, le déterrage des blaireaux et des renards. La chasse à la glu.
Vous savez qu'il y avait en France un championnat de France de déterrage de blaireaux en Saône-et-Loire?
Non, un championnat de France de déterrage de blaireaux.
Qui a fini par être interdit il y a quelques années.
Oui.
Il y avait ça effectivement en Saône-et-Loire.
Ah ben d'accord, bon. Il y a aussi la chasse à la glu, ça on connaît, qui consiste à piéger des oiseaux avec de la colle.
Oui. Ça se passe, c'est interdit partout en France, sauf dans 5 départements du sud-est de la France. Ouais. Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes où j'habite, Alpes-d'Haute-Provence, Vaucluse et Var.
Ouais,
alors là, donc, le problème, si vous voulez, c'est que donc 5 départements, c'est que ce sont des bâtons qui sont encollés, la colle qu'on peut acheter sur n'importe quel site internet, hein, c'est en vente spécialement dédié à cette chasse. Et ensuite, les oiseaux s'accrochent dans ces branches encollées, ils se mettent les ailes là-dedans, ils n'arrivent plus à voler. Éventuellement, on leur donne un petit coup d'essence de térébenthine ensuite pour enlever la colle. Ils sont parfois déplumés. Et puis surtout, on attrape là des espèces qui sont des espèces parfois protégées. Donc c'est une chasse qui est non sélective, ce qui est quelque chose qui est parfaitement interdit, d'ailleurs par l'Union européenne.
Oui.
Donc là, il y a un vrai problème si on veut conserver des espèces protégées, faire attention à notre nature et à notre biodiversité. Bah, il faudrait effectivement que cette chasse, qui est une chasse en plus cruelle, comme elles le sont en général toutes ces chasses traditionnelles, il faudrait vraiment qu'elles cessent. Un autre point, M. Bourdin, qui est essentiel. L'année prochaine, en janvier, il y aura le congrès mondial de la nature. Plus de 20 000 participants de toutes les nationalités du monde qui viendront à Marseille pour ce congrès de l'UICN. Dans les Bouches-du-Rhône, au sein du parc national des Calanques, la chasse à la glu est autorisée. Je voudrais que tout le monde le sache et que ces naturalistes du monde entier, quand ils vont venir en janvier prochain à Marseille, fasse quelque chose pour faire cesser cette chasse.
La chasse à la matole. On piège l'oiseau dans une cage. Ça, je ne connaissais pas non plus.
Oui. C'est pas la plus cruelle.
C'est pas la plus cruelle. La chasse à la tenderie, seulement autorisée dans une soixantaine de communes, qui consiste à piéger les grives à l'aide de collets suspendus.
Tout à fait. Et voilà, on les pend. On les étrangle et on les pend.
Il y a aussi la chasse à la tendelle.
Ouais.
Qui est un dispositif qui écrase l'oiseau avec une pierre dite assommoire.
Voilà.
Celle-là,
non, mais bon,
elle est pratiquée où
on est au 21e siècle, dans un pays développé comme la France. On explique qu'il faut faire attention à la nature, que la biodiversité est exceptionnelle et qu'il faut la préserver. Et qu'en plus, on est même encore en plein, on vous en parlait à l'instant, dans une épidémie du Covid, où on sait que les relations avec la faune sauvage, avec l'animal sauvage, peuvent être de nature à être en plus dangereuse pour l'homme, à apporter des maladies. Donc il faut la préserver, cette biodiversité. Toute la question qui se pose en réalité, c'est quelle est la place que l'homme veut donner aux animaux, quelle place il souhaite partager avec l'animal sur la planète. C'est une question qui a l'air un peu grandiloquente, mais au fond c'est ça. Le sauvage fait peur à l'homme. Alors le sauvage, on le massacre, on le tue, on l'écrase, on le pend, on l'englue. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Les chasses traditionnelles en France. Heureusement, elles sont de moins en moins développées, mais elles existent encore.
Et la chasse à cour?
Et la chasse à cour.
Vous voulez qu'elle soit interdite aussi?
Alors, elle n'est pas considérée comme une chasse traditionnelle. La chasse à cour, effectivement, on le sait, c'est une chasse qui est une chasse d'ailleurs qui était interdite en Allemagne et en Angleterre, ce qui fait qu'on en a plus en France. C'est une chasse qui génère un stress extrêmement intense chez l'animal, une mise à mort qui est horrible. Ce n'est pas une chasse dite traditionnelle, mais il faudrait effectivement également y mettre fin.
Y mettre fin. Ben, nous verrons si c'est suivi. Qui va décider? C'est le ministère de l'Agriculture. Enfin, c'est le président de la République. Hein, mais
la faune sauvage, c'est le ministère de l'Environnement.
De l'Environnement. Écoutez, on va voir ce que va dire Madame Borne. Merci beaucoup, Loïc Dombreval. Merci.
Merci, Monsieur Bourdin.
Merci d'être avec nous. Ça vous fait réagir, j'en suis absolument certain. C'est passionnant. Passionnant. Je viens de découvrir plein de choses. 6h51. C'est bon d'apprendre le matin. 6h51, Mathieu.
On va faire les courses?
Oui.
Anthony Morel nous emmène au supermarché. Marché avec des solutions pour tout désinfecter avant d'entrer dans le magasin. C'est déjà demain dans une minute sur RMC.
RMC, Bourdin Direct.
Et oui, bien sûr que la chasse fait réagir. Patricia nous dit, il reste tellement peu d'animaux sauvages que des élevages entiers de perdrix, de faisans, etc., etc., existent. Et quand cette pourriture qu'est la chasse ouvre, ces animaux sont totalement conditionnés, relâchés, tirés à bout portant. Ouvrez les yeux, combien de temps allez-vous encore tolérer cette saloperie qu'est la chasse? Écrit Patricia, très virulente ce matin. Camille nous dit que pendant très longtemps, il a défendu la chasse. Il avait des bons souvenirs avec son grand-père le dimanche matin où il y avait une chasse respectueuse. Mais maintenant, nous dit Camille, ce ne sont que des vins d'art, expression du chasseur qui tire, surtout juste pour le plaisir. Voilà pourquoi je déteste la chasse désormais, nous dit Camille. Jean-Michel se dit, pourquoi ces députés nous embêtent? Et est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire que de supprimer les chasses traditionnelles? Et puis Didier dit, arrêtons de toujours taper sur nous les chasseurs, on a énormément de règles, la plupart les respectent et nous sommes nécessaires pour réguler la nature et la biodiversité. Venez vous défendre, chasseurs. 3216rmc.fr pour nous rejoindre ce matin.
RMC au 732-16.
75 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC,
c'est déjà demain.
Déjà demain avec Anthony Morel. Non, déjà aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Là.
On est encore aujourd'hui. Hein,
bon, d'accord. Des tunnels de désinfection, ça c'est pour demain.
Oui, ça va arriver vraiment.
Ça va arriver vraiment.
Oui, oui, oui.
Des tunnels, écoutez bien. Des tunnels de désinfection avant d'entrer dans un supermarché.
Ouais, absolument. Bah, c'est notamment une PME de Tourcoing qui travaille sur ce sujet-là. Bah, faut imaginer que demain, on pourrait avoir à l'entrée des magasins, mais aussi, pourquoi pas, des entreprises, des hôpitaux, des EHPAD, ce qu'on pourrait appeler des sas de décontamination. Donc, c'est une petite boîte qui laisse passer, on va dire, un homme avec son caddie. Voilà. Et donc, en gros, entrez dans ce petit boîtier. Et là, vous avez un système de décontamination qui va se mettre en marche. Donc, en gros, vous avez des capteurs de présence. On sait que vous êtes là et là, vous allez être aspergé par une solution alors qui utilise du peroxyde d'hydrogène et de l'ozone. C'est un produit désinfectant. En gros, c'est un peu comme si vous alliez dans la station de lavage pour les voitures. Vous savez, c'est l'éléphant bleu, mais sauf que c'est pour vous. Quoi. En gros, vous entrez à l'intérieur, vous ressortez, vous êtes propre comme un sous-neuf et vous pouvez vous balader dans le supermarché en étant complètement décontaminé. Ça, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que c'est en cours d'homologation en France, mais il y a beaucoup de demandes, notamment à l'étranger. Et l'entreprise qui a créé ça imagine des modèles plus grands pour les entrées de stade, par exemple, ou les aéroports. Donc vraiment, on risque de voir arriver ces sas de décontamination assez rapidement.
Et pour gérer les flux de clients, certains magasins commencent à utiliser des tapis connectés.
Mais oui, parce que c'est très compliqué aujourd'hui. On dit, bon, bah, vous entrez, bon, vous attendez un petit peu, il y a un peu trop de monde dans le magasin. C'est très artisanal, ça fait un peu au petit bonheur la chance. Là, demain, on va utiliser des tapis qui sont équipés de capteurs de pression. Et donc, ces tapis vont savoir exactement combien de personnes sont entrées dans le magasin en temps réel. Et tout ça est relié à une petite tablette qui va vous dire, bon, vous passez ou vous arrêtez ou stop. Voilà, donc c'est assez malin. Là aussi, commence à être en train de déployer ce genre de solution.
En Occitanie, c'est vrai que c'est une région où on crée beaucoup en Occitanie.
Je me suis dit que ça allait vous plaire.
Nous travaillons sur des robots désinfectants qu'on pourrait notamment déployer dans les hôtels pour rassurer les clients.
Ben oui, c'est un des gros enjeux de la saison touristique qui va s'ouvrir. C'est en gros, faut montrer qu'on lave plus blanc que blanc dans les hôtels. C'est pas seulement on nettoie les couettes, c'est en gros il faut qu'on décontamine tout quasiment tous les jours. Et donc on a des hôtels qui commencent à s'équiper. Par exemple, au Gros du Roi, on a ce genre de
robot. Le Gard.
Ben voilà, dans le Gard, on a ce. Alors, est-ce qu'on peut encore appeler ça un robot? C'est une machine en fait qui est équipée de deux longs bras qui sont des néons qui vont diffuser des rayons UVC. Ce sont des rayons qu'on utilise pour stériliser le matériel médical notamment. Et donc vous mettez ça dans une chambre et en l'espace de moins d'une demi-heure, et ben on va complètement désinfecter 99,9% des micro-organismes, y compris sur les murs, dans les rideaux.
Tu dis robot.
Mais ouais,
il y en a un qui grogne.
Écoute, j'allais te dire la même chose. Là, ça passe.
C'est une bonne idée, Jean-Jacques.
Parce que vraiment, l'un des enjeux, ça va être
allez
de rassurer.
Allez voir les pêcheurs du Gros du Roi, vous allez voir, vous allez manger de bons poissons.
Et ben voilà, et vous finissez à l'hôtel complètement décontaminé par un robot.
Gros du Roi, on mange de très bons poissons.
C'est vrai?
Bah Évidemment, les pêcheurs du Gros du Roi, vous connaissez pas.
Ben non, mais ça donne envie.
Enfin, je dis ça comme ça, quoi. Il est 6h50, bon poisson de Méditerranée. Merci. Merci, merci. Il est 6h58, presque 59. Clarisse. Bonjour, Clarisse. Oui.
Bonjour Jean-Jacques.
Ça va ma chère Clarisse ce matin?
Ah ouais, je suis ravie, très très heureuse, vraiment. C'est génial, oui. Bah, d'autant que je viens de ma castière vient de casser, alors ça tombait en un peu mieux.
Là vous êtes vénarde, hein, Clarisse.
Ouais.
C'est quelle chanceuse. Vous regardez la radio, vous regardez la radio, vous écoutez la télé.
Disons que je regarde la télé, c'est plus facile.
D'accord, ma chère Clarisse. Vous êtes à Lens, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec. Vous allez tout recevoir très vite.
Oh, c'est super génial. Merci à vous, à toute l'équipe. Et surtout, continuez comme ça. Vous êtes trop géniaux tous.
Oui, merci beaucoup. Toute l'équipe va continuer. Oui, moi, je ne sais pas.
C'est génial. Merci beaucoup.
Bien, il est presque 7 heures. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC et RMC Découverte.